Ça va bien?
Ben moi aussi, ça va très bien. Dieu soit béni, on est en train de vieillir tous. Savez-vous qu'est-ce que nous avons eu une bonne nouvelle cet après-midi? C'est drôle, il y a des moments comme ça, vous avez vu dans la vie communautaire, hein, enfin la vie chrétienne. Là, cette semaine, c'est Alain Héroux qui a pris contact, repris contact avec nous, Daniel Perrin, et puis là, Sylvie Launay, qui nous invite, Michou et moi, à ses 50 ans. Et c'est une grande joie, hein, on est très contents, on va aller. Et puis voilà, mais seulement on est embêté, qu'est-ce qu'on va lui faire comme cadeau? Il va falloir qu'on réfléchisse. Un bijou, oui. Voilà, on va voir, on va réfléchir. Eh bien, nous allons ouvrir la parole de Dieu ce soir. Nous allons voir de nouveau un logion, le numéro 107, qui va vous rappeler quelque chose. Le numéro 107 dans l'évangile de Thomas. Alors, Jésus a dit... Le royaume est comparable à un berger qui avait 100 moutons. L'un d'entre eux, le plus gros, disparut. Il laissa les 99 et il alla chercher. Il chercha l'un jusqu'à ce qu'il l'eût trouvé. Après l'épreuve, il dit au mouton, « Je te veux plus que les 99. » Amen. Que vous asseoir. Vous connaissez cette parabole, aussi dans les autres évangiles. Ce que je voulais dire, c'est que Jésus est venu chercher et sauver ceux qui lui appartiennent. Amen. Il avait 100 moutons, il n'en avait pas 102, il en avait 100, il en a perdu un. Ça veut dire qu'il y en avait 99 qui sont restés dans l'endroit où ils étaient, dans la bergerie ou dans le champ où ils étaient en train de paître. Et puis, le maître est allé chercher celui qui était perdu et il l'a retrouvé, il était content. Il y a plus de joie pour un pécheur qui se repent que pour 99 qui font... des bramés dans les églises et ce qui se roule par terre, comme c'est la mode maintenant dans certains endroits, que Dieu soit béni, pas chez nous. Bonjour à tous ceux qui nous écoutent sur Internet, que Dieu vous bénisse. Je sais que vous nous écoutez en Suisse, vous nous écoutez en Côte d'Ivoire, bonjour Maddy, bonjour Marc, bonjour tout le monde, bonjour tous les frères et sœurs, je pense à vous en particulier, mais il y en a d'autres aussi, que Dieu vous garde dans la paix, et que ce soir vos cœurs soient ouverts pour comprendre en même temps que nous autres ici, ce que Dieu veut nous dire. Bon, nous, c'est vendredi soir, on choisit pas l'heure. Hein, c'est une heure qu'on s'est imposée, alors vendredi soir, on est tous un peu là, ce soir, je vois les yeux à moitié fermés, fatigués et tout, mais vous pourrez, vous autres aussi, réécouter sur Internet. C'est bien pratique, ça, hein, c'est vraiment bien. Que Dieu soit béni pour la haute technologie qui ne sert pas qu'à la stupidité, à la bêtise, mais aussi pour les bonnes choses. Il y a quelque chose, dans les milieux chrétiens, qu'on n'aime pas entendre. Qu'arrive-t-il aux pécheurs perdus? On n'aime pas entendre ça. On n'aime pas entendre ça. Les pécheurs vont-ils être punis, envoyés en enfer? La question, c'est toujours, mais Dieu est-il amour? Si Dieu est amour, comment est-ce qu'il veut? Il va pouvoir envoyer en enfer, dans un tourment éternel, ses enfants. Comment peut-il jeter ses enfants en enfer? Mais c'est monstrueux. Est-ce que Dieu est vraiment amour? Frères et sœurs, en vérité, je vous le dis, il ne le fera jamais. Jamais. Dieu est compatissant. Dieu est lent à la colère. Il est plein de miséricorde. Il pardonne ses enfants toujours. Oui, mais alors, qu'est-ce qu'on va faire avec Matthieu 25, 41, 46? On va le lire. Qu'est-ce qu'on va faire avec Matthieu 25, 41, 46, on va lire ça. Parce qu'on va quand même pas enlever des passages des Saintes Écritures simplement pour dire, voilà, Dieu est bon, il n'y a pas d'enfer. On va lire. Matthieu 25, 41 à 46. Je trouve le verset. Ensuite, il dira à ceux qui sont à sa gauche, « Retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable » et pour ses anges, car j'ai eu faim, vous ne m'avez pas donné à manger, j'ai eu soif, vous ne m'avez pas donné à boire, j'étais étranger, vous ne m'avez pas recueilli, j'étais nu, vous ne m'avez pas vêtu, j'étais malade et en prison, vous ne m'avez pas visité. Ils répondront aussi, Seigneur, quand avons-nous vu, ayant faim, ou ayant soif, ou étranger, ou nu, ou malade, ou en prison, et ne t'avons-nous pas assisté? Et il leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous n'avez pas fait ces choses à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne les avez pas faites. Et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. Amen. Voilà, donc, voilà. Ah, Michel, tu dis que Dieu n'enverra jamais ses enfants en enfer. Ben, tu vois, là, regarde, c'est quand même bien écrit. Voilà, il va faire une séparation. Hein? Il y en a qui vont aller griller en enfer. Alors, qu'est-ce que tu nous racontes, Michel? C'est encore une nouvelle doctrine à toi pour te rendre intéressant? Le texte dit qu'il y a un feu qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Dieu y enverra ceux qui sont les maudits. Il le dit lui-même. Les maudits. Mais qui sont ces maudits? Des anges. Ah bon? Oui. Rappelez-vous, le mot ange, je vous l'ai déjà chanté 50 000 fois, hein, le mot ange signifie envoyé. Ce feu a été préparé par qui? Par Dieu. Et qui est jeté dans ce feu? Le diable et ses envoyés. La Bible dit le diable et ses anges. C'est-à-dire le diable et ceux qu'il a envoyés. Ses anges. Que vous le vouliez ou que vous ne le vouliez pas, c'est quand même Jésus qui dit ça. Il y a sur la terre, il y a dans les lieux célestes, des êtres envoyés par Dieu et des êtres envoyés par le diable, des anges de Dieu et des anges du diable. Que vous le vouliez, que vous ne le vouliez pas, que ça chiffonne vos sentiments. C'est comme ça. On va lire autre chose. Jean 10, 3 à 5. Faire quelques lectures ce soir. Jean 10, 3 à 5. Le portier lui ouvre et les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent. Il les conduit dehors. Lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles. Et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Elles ne suivront pas un étranger, mais elles fuiront loin de lui parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Pour qui Jésus, le bon berger, a-t-il donné sa vie? Un autre verset, Jean 10, verset 11, toujours le même Jean 10, verset 11. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. On relit de nouveau le verset 3. Il les conduit dehors. Lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles. Il les fait sortir dehors. C'est-à-dire, le mot église signifie hors d'eux. Il les fait sortir hors de ce système, hors de cet immonde système qui est le monde. Il les fait sortir. Il fait sortir toutes ses propres brebis. Il marche devant elles. Et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Elles ne peuvent pas suivre un autre parce qu'elles ne connaissent pas la voix de l'autre. Elles ne veulent pas le suivre. Et il dit, je suis le bon berger, je donne ma vie pour mes brebis. Mes brebis. Jésus fait-il la différence entre ses brebis et d'autres brebis? Bon, on va lire Jean 10, toujours, verset 14. Je connais mes brebis, et elles me connaissent comme le Père me connaît et comme je connais le Père. Et je donne ma vie pour mes brebis. Bon. Ça veut dire qu'il y a des brebis qui sont à lui. Logiquement, ça voudrait dire qu'il y en a d'autres qui ne sont pas à lui. Il dit aussi, j'ai des brebis, j'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène, elles entendront ma voix. Il y aura un seul troupeau, un seul berger. Alors les chrétiens pensent, voilà, ces autres brebis, parce que Jésus parlait au peuple juif, ces autres brebis, ben, c'est les brebis des nations. Non. Ce n'est pas les brebis des nations. C'est les brebis qui sont dans le séjour des morts où Jésus est allé aussi prêcher. Il est allé prêcher dans le séjour des morts. Elles ont vraiment entendu sa voix. D'accord. Et 1 Pierre 4, 6 nous dit qu'ils ont été jugés, ils ont été placés dans le séjour des morts, ils ont été jugés quant à la chair, mais ils peuvent entendre l'évangile afin qu'après avoir été jugés quant à la chair, ils puissent vivre quant à l'esprit selon Dieu. Voilà. Bon. Ça, c'est une autre prédication, mais c'est pour vous dire, il a ses brebis. Il a ses brebis sur terre, et il a ses brebis sous terre dans le séjour des morts, et tout pouvoir lui a été donné dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Mais il a ses brebis à lui, puis il y a les autres brebis. Il y a des gens qui ne sont pas à lui. On va lire Jean 10, 26 à 29. Toujours Jean 10, 26 à 29. mais vous ne croyez pas,
il dit à une certaine catégorie de gens, parce que vous n'êtes pas de mes brebis.
Mes brebis entendent, c'est-à-dire comprennent, entendent ma voix. Je les connais, elles me suivent, je leur donne la vie éternelle, elles ne périront jamais et personne ne les ravira de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Moi et le Père, nous sommes un.
Et à cause de ça, ils ont voulu le lapider.
Ben oui, c'est pas juste.
Les chrétiens sentimentaux aussi disent, c'est pas juste.
Ou alors ils disent rien et puis ils veulent pas réfléchir.
Vous n'écoutez pas parce que vous n'êtes pas de mes brebis.
Mais est-ce qu'elles peuvent venir de ces brebis?
On va réfléchir à tout ça.
Entre Jésus et ses brebis, il y a une relation claire. Jean 10, verset 27, déjà lu. Mes brebis entendent ma voix, je les connais, et elles me suivent. Il y a une relation, c'est clair. C'est clair. Maintenant, cela dit, nous comprenons donc qu'il y a ses brebis et les autres. Est-ce qu'on va avoir le courage d'approfondir cela ou pas? Voulez-vous entretenir une ignorance sentimentale et contradictoire sous prétexte que vous n'osez pas aborder le sujet d'une apparente injustice de Dieu? Ou est-ce que vous voulez savoir de quoi il en retourne? Moi, je pense qu'il est bon de savoir de quoi il en retourne. Si Jésus dit ça, ce n'est pas parce qu'il est énervé. Il est la vérité, il ne peut pas dire de mensonges. Il ne peut pas dire des choses comme ça qui ne sont pas vraies. Il dit, vous n'êtes pas de mes brebis. Était-ce vrai? Certainement. Frères et sœurs, nous sommes des esprits, tous. Tous les êtres humains que vous voyez sont des esprits. Des esprits incarnés, ça ne veut pas dire réincarnés, ça veut dire incarnés. Ils sont venus une fois dans la chair, c'est ça que ça veut dire. Mis dans la chair, incarnés. Vous êtes des esprits incarnés, mais vous êtes des esprits avant tout, des esprits éternels. Et votre chair n'est pas éternelle, c'est elle qui reçoit la vie éternelle. Parce que nous ressusciterons avec notre corps. Nous sommes avant tout des esprits. Et nous avons été envoyés sur terre. Certains sont des esprits envoyés par Dieu, leur père. Et d'autres sont envoyés par le diable, qui est leur père. On va lire Jean 8, 42, 47. Tout se trouve dans Jean 8, dans Jean, on dit l'apôtre de l'amour. Mais vous avez vu, si on analyse ce qu'il dit, mais c'est terrible. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas de l'amour. Mais dans l'amour, il n'y a pas d'injustice. Jean 8, 42, 47. C'est Jésus qui parle avec des gens, il leur dit, « Si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez, car c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, c'est lui qui m'a envoyé. » Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Il ne leur pose pas la question pour avoir une réponse. Il a la réponse. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. Vous ne pouvez. Vous n'en avez même pas le pouvoir. C'est comme une vache, elle ne peut pas comprendre. Pas. Parce que vous ne pouvez. C'est une question de nature. Vous ne pouvez pas écouter ma parole. Vous avez pour père le diable. Et vous voulez accomplir les désirs de votre père. C'est dans leur nature. Il a été meurtrier dès le commencement. Et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Ah. Pourtant, c'est Dieu qui l'a créé. Oui, oui, Dieu l'a créé. On va voir ça. On va voir ça. Lorsqu'il profère des mensonges, il parle de son propre fond, car il est menteur. Ce n'est pas qu'il dit des mensonges et c'est à cause de ça qu'il est menteur. Il est menteur. Alors c'est pour ça qu'il ne peut pas faire autrement que de dire des mensonges. Vous comprenez? Il est menteur, il est le père du mensonge. Et moi, parce que je dis la vérité, vous ne me croyez pas? Qui de vous me convaincra de péché, d'erreur? Si je dis la vérité, pourquoi ne me croyez-vous pas? Celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu. Vous n'écoutez pas parce que vous n'êtes pas de Dieu. Il nous semble que c'est très clair. Mais encore faut-il oser comprendre ce que cela veut dire. Est-ce que vous allez oser comprendre? Est-ce que Jésus a dit ça parce qu'il était agacé par ces religieux qui avaient des fortes têtes? Est-ce que Jésus est capable de dire à tous les pécheurs, vous avez pour père le diable, alors convertissez-vous pour changer de père? Est-ce qu'on change de père?
Ma sœur, il est la vérité, il dit la vérité. Il a été envoyé du Père, il le dit. D'ailleurs, il dit à ses enfants, comme j'ai été envoyé, je vous envoie. Et il dit à ses interlocuteurs qui cherchent à le faire mourir, on a vu ça au verset 40, qu'ils, eux, ils ont été envoyés par leur Père. Il dit, moi j'ai été envoyé par mon Père, vous avez été envoyé par le vôtre, le diable. Vous avez pour Père le diable, c'est le diable qui vous a envoyé. Maintenant, rappelez-vous, l'enfer, le lieu de tourment, le feu éternel a été préparé pour le diable et ses anges, pour le diable et ses envoyés. Il dit maintenant, vous avez été envoyés par le diable. Vous êtes des enfants du diable. Vous êtes des enfants, des envoyés du diable. Vous êtes des anges du diable, incarnés, mis dans la chair. Alors ici-bas, mes frères et sœurs, ce n'est pas la lutte entre le bien et le mal. C'est la lutte entre les envoyés de Dieu et les envoyés du diable. C'est ça qu'il faut comprendre. Vous ne changerez pas un fils du diable en fils de Dieu. Vous ne pouvez pas. Les envoyés du diable ne peuvent pas écouter la parole de Dieu. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est Jésus. Et c'est avec Jésus que vous allez avoir affaire à réfléchir maintenant. Vous ne pouvez, ils peuvent pas écouter la parole de Dieu, qu'elle soit annoncée par Jésus en personne ou par moi. Ou par vous qui êtes enfants de Dieu. Luc 10, 16 nous dit, celui qui vous écoute, c'est Jésus qui parle à ses disciples au ciel, il dit, celui qui vous écoute, m'écoute. Et celui qui vous rejette, me rejette. Ce n'est pas une question que Jésus est convaincant ou pas, ou que je suis convaincant ou pas, ou que vous êtes convaincant ou pas quand vous faites votre évangélisation. Celui qui n'est pas de Dieu ne peut pas vous comprendre, ne peut pas vous entendre, ne peut pas être d'accord. Il est contre sa nature. Il leur dit, à ceux qui cherchent à le faire mourir, « Vous n'êtes pas de Dieu. » Ils sont de où alors? Il y a quelque chose qui a été créé qui ne vient pas de Dieu. Comment alors? Michel, explique-nous. Jésus dira, par exemple, de Judas, non pas qu'il avait un démon, mais qu'il était un démon. Moi, j'avais des démons avant. Et Jésus m'en a libéré. Mais Judas n'avait pas un démon, il était un démon, c'est-à-dire il était un ange déchu qui avait pris un corps. Il était un ange déchu, un démon. Jean 6, 70, vous lirez ça? Et juste avant d'aller trahir Jésus, le diable s'est encore emparé de lui pour l'inspirer, pour le fortifier, pour qu'il puisse faire ce qu'il avait à faire. Le diable en personne est venu, vous lisez ça dans Jean 13, 2. Son père est venu lui donner un coup de main, comme notre père vient nous aider. Le diable vient aider aussi. Il fait son œuvre pour aider ses envoyés à faire l'œuvre qu'il veut qu'ils fassent. Il était venu pour accomplir l'œuvre de son père, Judas. Il ne faut pas venir me raconter que c'était une pauvre victime qui avait mal compris, etc. Non. Ça, c'est dans les films de Hollywood. À la sauce dégoulinante de bons sentiments, on nous montre un Judas qui dit « Mais je l'aime pourtant, tous les enfants l'aiment, mais je ne sais pas pourquoi, mais bon voilà, je vous le livre. » Bon, on comprend pas, on dit « Mais il est fou, qu'est-ce qu'il a, il y a un problème le mec et tout. » Mais pas du tout, il était intéressé par le pognon, mais plus que ça, il était surtout intéressé à faire l'œuvre de son père. Il fallait qu'il la fasse. Il était tellement obligé de la faire, c'était tellement clair, Dieu n'a pas été surpris, Dieu le savait. Il l'avait annoncé au travers de Zacharie. Alors Matthieu nous relate la chose dans Matthieu 27, 7, que ça coûterait 30 deniers, et ça a coûté 30 deniers, c'était le prix de la valeur estimée pour Jésus, que ces 30 deniers allaient servir pour acheter le champ d'un potier. Tout ça, ça avait été annoncé quelques centaines d'années avant. Vous trouvez ça dans Zacharie 11, 12, 13. Il n'y pouvait pas faire autrement. Dieu le savait, parce que Dieu fait tout à merveille. Dieu sait tout. Non pas parce qu'il sait tout comme ça, mais parce que c'est lui qui arrange toutes choses. Il me dit, mais c'est monstrueux. Mais pourquoi c'est monstrueux? C'est pas monstrueux du tout. Attendez, on va réfléchir encore. On va aller jusqu'au bout. Il faut savoir. Ou alors, on s'en fout, puis on continue à vivre comme ça. Alléluia. La foi du charbonnier. Tout cela a été prédestiné, mes frères et sœurs. Tout a été fait par Dieu.
Dieu fait tout pour un but. Il a un but, il a une raison à tout, il sait pourquoi. Proverbe 16, 4 nous dit l'Éternel a tout fait pour un but, même le méchant, même le diable, même le méchant et ses anges, même le diable, même le méchant, pour le jour du malheur. Alors voilà, sur terre, il y a des esprits, certains sont envoyés de Dieu et d'autres sont envoyés par le diable. C'est deux sortes d'anges, deux sortes d'envoyés. Qui sera sauvé? Ceux qui ont été envoyés sur terre par Dieu. Vous allez me dire, mais sauvé de quoi alors? De l'enfer? Non! Non, non! Pas sauvé de l'enfer, on n'ira de toute façon pas en enfer. De toute façon, on n'ira pas. Même les gens qui n'ont jamais entendu parler de Jésus au 3e siècle après Jésus-Christ, en Australie, au fin fond de l'Afrique, ils n'ont jamais entendu parler du sang de Jésus qui est mort sur la croix pour le rachat. Ils n'ont jamais entendu parler. Ils ont été mis dans le séjour des morts. Ils ont été jugés quant à la chair. Ils ont été jugés d'après leurs œuvres. Des livres seront ouverts. On regardera leurs œuvres. Et ensuite, on regardera si leur nom est inscrit. Si leur nom est inscrit, ils seront sauvés. Si leur nom n'est pas inscrit, ils seront perdus. Quand est-ce que les noms étaient inscrits? Avant la fondation du monde. Éphésiens chapitre 1. Mais aucun des enfants de Dieu ne sera perdu. Tous ceux qui sont, ils ne pourront pas être perdus. Sauvés de quoi alors? De quoi sommes-nous sauvés? C'est l'enfer. Sauvés du fait d'avoir été perdus sur terre. Nous avons été perdus par Dieu, ici-bas, sur terre, dans un but bien précis, pour y livrer un combat contre les anges du mal, afin que Dieu, notre Père, soit glorifié. Quand on est arrivé sur terre, on a perdu la conscience de notre identité divine. C'est ça, être perdu. C'est perdre la conscience de notre identité divine. Et on a subi les mêmes choses que les envoyés du diable, que les anges du diable. Nous sommes les envoyés de Dieu, nous avons été mis sur cette terre comme les enfants du diable. La même chose, pas de préférence. Tous jetés sur cette terre et puis débrouillez-vous. Les mêmes problèmes, les mêmes tentations, les mêmes maladies, la même déchéance morale, la même déchéance physique, la même déchéance mentale, le péché, toutes ces choses. Hein? Et puis un jour, nous les enfants de Dieu, oh, c'est Dieu qui nous cherchait. La Bible dit, c'est pas nous, personne cherche Dieu. C'est même pas nous qui avons cherché, c'est Dieu qui nous a cherchés. Il y avait 99 brebis, il y en a une qui était perdue, c'était nous. Il est venu nous chercher, il nous a parlé, nous avons reconnu sa voix, nous l'avons suivi. Amen. Un jour, nous avons entendu la voix du bon berger. Moi, j'ai entendu Raphaël. Si j'avais rejeté la parole de Raphaël, c'est Jésus que je rejetais. Vous, si la personne que vous avez entendu prêcher l'évangile, si vous l'aviez rejeté, c'est Jésus que vous rejetiez. Mais vous ne pouviez pas le rejeter. C'était évident. Oui ou non, c'était pas évident pour vous? Ah, mais voilà, c'est ça, ça correspond. Vous avez entendu la voix du bon berger qui vous cherchait. Et nous l'avons reconnu. Alors toi qui m'écoutes là, maintenant ici, là, ou sur internet, ou peu importe où tu écoutes, tu reconnais la voix du bon berger. Tu sais au fond de toi que Jésus est le Fils de Dieu. Tu sais au fond de toi qu'il t'aime. Tu sais que tu es aimé. Tu sais qu'il a payé le prix. Tu sais qu'il a payé pour toi. Tu sais qu'il t'a pardonné tes péchés. Il est mort pour ça, pour que tu puisses être pardonné des péchés que tu as fait depuis que tu es perdu sur cette terre. Il a tout effacé, tout pardonné. Ça, c'est le prix qu'il a payé pour que tu sois sauvé et que tu retrouves ton identité divine, que tu retrouves ce pouvoir de la vie éternelle et qu'il soit communiqué à ton être, à ton âme. Mais sache-le bien, quand tu étais perdu, moi j'étais perdu jusqu'au 1er juin 1968, jusqu'à 21h44. À 21h45, j'étais sauvé. Mais à 21h44, j'étais encore perdu. Mais j'étais déjà un enfant de Dieu. On ne devient pas enfant de Dieu parce qu'on lève sa main dans une réunion. On ne devient pas enfant de Dieu parce qu'on choisit. On est, et de toute éternité, avant la fondation du monde, on a été élu, choisi. Et puis, j'ai eu la révélation là, entre 21h44 et 21h45, parce que j'ai entendu la voix du bon berger et je me suis réconcilié avec lui. J'ai fait la paix avec lui. Mais j'étais déjà enfant de Dieu avant, quand j'étais dans le péché. Mais je ne le savais pas. J'étais perdu. Et de perdu, j'ai été retrouvé, j'ai été sauvé. Quand la brebis s'est perdue, quand elle a été perdue, la brebis de tout à l'heure, quand on a lu, voilà, il y a 99 brebis, il en a perdu une, il va la chercher. Quand il trouve la brebis, c'est quoi? Une vache? Mais non, c'est une brebis. À qui? À lui. Elle est perdue, il la retrouve. Elle était toujours à lui, elle était toujours une de ses brebis. Eh bien, comme vous, la même chose. Vous avez toujours été une brebis du Seigneur. C'est pourquoi, depuis toujours, vous avez toujours aimé les choses de Dieu. Il y avait quelque chose qui vous chatouillait de ce côté-là. Alors, vous adoriez comme vous pouviez, vous faisiez comme vous pouviez. Mais au fond de vous, il y avait quelque chose. Qui peut me dire le contraire? Alors, toi qui m'écoutes, tu sais ça. Tu étais un enfant de Dieu perdu, mais tu étais un enfant de Dieu déjà. Le Saint-Esprit en toi te murmure que tu es de Dieu. Tu aimes Jésus, tu aimes sa parole, tu aimes ses lois. Bon, même si des fois tu as de la peine à les vivre, à vivre sa volonté, mais au fond de toi tu aimes. Est-ce qu'un enfant, parce qu'il fait des bêtises, il n'est pas le fils de son père? Tiens, alors justement, revenons un peu sur terre. La plupart d'entre nous, on est des parents. Et puis pour ceux qui ne sont pas encore parents, eh ben, en tout cas, vous avez eu des parents. J'espère qu'ils étaient normaux. En tout cas, dans les relations parents-enfants normaux, ça se passe comme ça. Les enfants font des choses que les parents approuvent ou désapprouvent. C'est comme ça qu'on apprend. Ça, c'est bien. Ça, c'est pas bien. Mets pas tes doigts dans le nez, c'est pas bien. Hein, mets tes mains sur la table, c'est bien. Aux États-Unis, on vous dit non, c'est pas bien. Vous les mettez sous la table en mangeant. Vous savez ça? Si, si, c'est comme ça. Aux États-Unis, si vous mettez les mains sur la table, c'est pas bien. Vous les mettez dessous. C'est comme ça. Ça dépend de ce que les parents approuvent ou désapprouvent. Ce que vos parents désapprouvaient, ça devenait mal. Et ce qu'ils approuvaient, ça devenait bien pour vous. Et comme ça, vous avez été éduqué petit à petit. Lorsque un enfant fait une chose que vous désapprouvez, vous, eh bien, vous le punissez. La raison profonde, c'est qu'il vous a désobéi et vous vous sentez offensé. C'est ça, la grosse. Et c'est pourquoi on se met en colère. C'est pourquoi je dis, ne vous mettez, quand vous punissez vos enfants, ne le faites pas quand vous êtes en colère. Attendez que la colère passe et punissez-le après. Vous lui faites une bonne raclée s'il faut, mais avec la paix dans le cœur, pas quand vous êtes en colère. C'est pas bon. Parce que la raison profonde, humaine, charnelle, c'est on se sent déshonoré parce qu'il a fait quelque chose de mal. On est offensé. L'enfant est entré en conflit avec nous. Il s'est affirmé, il a dit non. Il dit, tu touches pas, il a touché, vous a désobéi, il a touché à votre autorité. C'est pas ça? Si, c'est ça. Autorité. Maintenant, il y a autre chose. Vous vous dites aussi, bon, il a mal agi. Il ne faut pas toucher, il a touché, il a mal agi. Il doit être corrigé, parce que si je ne le corrige pas, comment est-ce qu'il va... Il va tourner, ce n'est pas possible. Il va prendre des mauvais plis, il va prendre le mauvais chemin. Et ça, aussi, ça, vous avez raison. Il doit être aussi récompensé. Lorsqu'il vous obéit, lorsqu'il fait quelque chose de bien, spontanément, même sans que vous lui disiez, il doit être récompensé. Et c'est ainsi qu'on conditionne les enfants pour qu'ils deviennent comme il faut. Comme on pense qu'il faut que ça soit comme il faut. Ça, c'est la relation parent-enfant. Maintenant, ça se trouve aussi dans la société. Soit qu'il y a des prisons. Les prisons, ça a changé avec la psychologie humaine. Hein. On mettait les gens en prison pour les punir. Après, on a dit non, c'est pour protéger la société. On a dit non, c'est pour essayer de faire une réinsertion. Et puis, etc. Donc, vous voyez, on change. La psychologie, ça change. On dit que c'est pour leur apprendre la gravité de ce qu'ils ont fait, qu'ils aient le temps de réfléchir. En général, c'est faux, hein. La réalité, c'est parce que la société ne peut pas tolérer les rebelles parce qu'elle a peur que ça déstabilise sa structure. C'est ça la réalité. Pensez-vous que Dieu punisse parce qu'il ne veut pas qu'on déstructure ce qu'il a construit? Il n'a vraiment aucune peur à ce sujet-là. Aucune peur. Il ne punit pas parce qu'il se sent... frustré parce que vous lui échappez, parce que vous avez dit non au Père, parce que vous avez dit non à son autorité. Il dit, damned, je suis joué par ce morpion qui me désobéit effrontément, Je me sens vraiment déshonoré en face de mes anges, en face du diable, en face de tout le monde, quand même. De quoi j'ai l'air d'avoir un enfant comme ça? Mais qu'ai-je fait au bon Dieu? Ah non, il ne dit pas ça. Dieu détruira ce qui n'est pas à lui et c'est tout. Il a tout créé dans un but. Quel but? Le but de se débarrasser de ce qu'il désapprouve. Parce qu'en lui aussi, il y a cette chose. Il y a des choses qu'il désapprouve. Alors, si tu veux qu'on mette les mains sur la table ou sous la table, ça c'est écrit dans la Bible, hein, pas les mains. Mais d'autres choses, il ne faut pas voler, il ne faut pas tuer. Toutes les choses qu'il désapprouve, par exemple la jalousie, la haine, la bêtise, l'indifférence, l'orgueil, l'avarice et toutes ces sortes de choses. Mais tout ça, ça n'a pas été inventé par nous ni par le diable. Tout ça, c'était en lui. Tout vient de lui. Et il a décidé de se débarrasser de ce qu'il désapprouve. Dieu est jaloux. Des fois, les chrétiens, un peu fleur bleue, quand je leur dis que Dieu est jaloux, ils disent « Oh, mais frère Michel, c'est une sainte jalousie, c'est pas comme nous, une jalousie de bas étage. » Dieu est jaloux et il n'aime pas ça du tout. Il veut se débarrasser de ça. Vous comprenez? Il n'y a pas la sainte jalousie, puis la mauvaise jalousie. La jalousie, c'est la jalousie. Bon, elle est sainte parce qu'elle vient de Dieu, mais il veut s'en débarrasser. Alors, il a créé, il a concentré dans un truc créé, tout ce qu'il allait, tout ce qu'il n'aimait pas, tout ce qu'il désapprouvait, et il va le mettre dans une poubelle, un lieu préparé pour le diable et pour ses anges. Il les a créés pour les détruire. Et il est en train de démontrer par nous sa sagesse infiniment variée. On va lire Éphésiens 3, 8, 12. Est-ce que ça c'est clair, ce que je vous dis là? Est-ce que ça c'est clair? Éphésiens, qu'est-ce que j'ai dit? 3, 8, 12. 3, 8, 12. À moi qui suis le moindre de tous les saints, c'est Paul qui parle, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens, c'est-à-dire aux non-juifs, les richesses incompréhensibles de Christ, et de mettre en lumière quelle est la dispensation du mystère caché de tout en Dieu qui a créé toutes choses, tout, le diable, tout. Afin que les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu, selon le dessein éternel qu'il a mis à exécution par Jésus-Christ notre Seigneur, en qui nous avons par la foi en lui la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. C'est clair. Tout a été créé par lui et Dieu tire gloire du fait que nous nous mettions à part pour servir Dieu dans ce combat, non pas contre le mal, mais contre les envoyés du diable, leur résistant et leur montrant que nous sommes différents dans nos agissements. Parce que si vous faites du mal, par exemple, supposons, vous faites quelque chose de mal. Par exemple, tu dis un mensonge. Eh bien, ça ne fait pas de toi un menteur. Tu n'es pas un menteur. Tu as dit un mensonge. Et ça, tu peux être pardonné. Mais être un menteur, c'est impardonnable. Vous comprenez ? Nous avons péché, nous avons pris des mauvais plis. Et de temps en temps, il nous arrive de faire quelque chose de pas bien. Ça ne veut pas dire qu'on est ça. On est tenté de le faire, mais on n'est pas ça. On n'aime pas ça. On aime la sainteté, on aime la beauté, on aime la douceur, on aime la gentillesse, on aime la pureté. Et puis de temps en temps, on fait quelque chose qui n'est pas... Et de voir quand le diable et ses dominations puissantes dans les lieux célestes, toutes ces autorités mauvaises, quand elles nous voient faire quelque chose de mal, et puis aller sur nos genoux, dire « Mon Dieu, je confesse, voilà, j'ai fait tel péché, je sais que tu es compatissant, tu me relèves, oh mon Dieu, je confesse mon péché, tu es fidèle et juste pour me pardonner, me purifier, me laver. » Et quand ces démons vous voient vous relever et dire « Merci Seigneur Jésus, parce que tu as versé ton sang pour moi, je suis ta brebis, je t'aime, je sais que tu n'es pas en colère, je sais que tu m'aimes toujours, tu m'aimeras toujours. » Le diable, là, il connaît la sagesse infiniment variée de Dieu et ça le dépasse. Parce que ça s'appelle l'amour. Et l'amour, le diable, il n'y connaît rien du tout. Il n'a pas été programmé pour. Amen. 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 Dieu a créé le méchant, le diable,
et ses envoyés. Pour le jour du malheur qu'on trouve dans Apocalypse 20, verset 15, on va le lire. Apocalypse 20, verset 15. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans les temps de feu. Voilà. Ceux qui ont été écrits, moi, c'est pas moi qui ai été écrit mon nom, hein. C'est pas vous qui avez été écrit votre nom, c'est Dieu qui l'a écrit avant la fondation du monde. Ceux qui ne sont pas trouvés écrits, dégagés, circulés, il n'y a rien à voir. Maintenant, certains diront, oui, mais enfin, quand même. Le diable a été créé par Dieu. C'est donc un fils de Dieu. Il est issu de Dieu. Il est sorti de Dieu. C'est quand même quelque chose qui est sorti de Dieu. Puis voilà que Dieu le jette. Bon, je ne veux pas être grossier, mes frères et sœurs, hein. Mais écoutez-moi bien. Tout ce qui sort de vous, est-ce que c'est digne d'être appelé votre fils ? N'y a-t-il pas des choses qui sortent de vous qui doivent être jetées ? Tout ce que Dieu a créé n'est pas fils et fille de Dieu, sans être grossier. Les arbres ne sont pas fils de Dieu. Les vaches ne sont pas filles de Dieu. Les araignées, surtout les araignées, ne sont pas fils de Dieu. Il a créé l'homme à son image. Nous sommes ses enfants. Oui, mais Satan, ce n'est pas un fils de Dieu. Dans Job, c'est écrit... Attends, on va lire. Job 1, 6. Job 1, 6. Or, les fils... Tiens, je croyais que Jésus était le fils unique de Dieu. Puis voilà que maintenant, c'est écrit les fils. Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel. Virgule. Et Satan vint aussi au milieu d'eux. L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu ? Et Satan répondit à l'Éternel, de parcourir la terre, de nous promener. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job ? Et voilà l'histoire de Job qui commence. Job. Satan vint aussi au milieu d'eux. Maintenant, je vais vous dire une phrase pour que vous compreniez. Beaucoup de gens disent, voyez, Satan est un fils de Dieu. Non. Non, c'est une créature de Dieu, comme les veaux, les vaches et les cochons. Ce n'est pas un fils de Dieu. Écoutez bien. Ce soir, nous, ici, à la chapelle du sanctuaire, bientôt, tout à l'heure, nous allons sortir et nous allons nous retrouver tous ensemble au château, dans le grand salon, avec Potter, notre caniche royal, qui viendra aussi au milieu de nous. Est-ce que ça fait de lui un humain ? Vous m'avez compris ? Si vous n'avez pas compris, vous réécoutez la phrase, s'il vous plaît. C'est pas parce que quelqu'un vient au milieu des fils de Dieu qu'il est fils de Dieu. D'accord ? Jésus est la vérité. Jésus dit la vérité. Si vous croyez la vérité, vous allez vivre la vérité. Vivre la vérité, c'est reposant. Si vous ne voulez pas vivre la vérité, vous aurez toujours un doute qui va coincer dans vos sentiments, qui va faire que vous allez être angoissé au sujet de tout ça. La foi n'exclut pas les sentiments, mais nous ne devons pas entretenir des sentiments erronés. On va étudier ces choses un peu plus profondément encore dimanche, si vous voulez bien. Vous voulez bien ? Ah, ils sont contents, ils sont joyeux. Mais souvenez-vous, il n'y a pas d'injustice en Dieu, absolument pas. Il n'a commis et il ne commettra jamais d'erreur, jamais. C'est à nous de comprendre, c'est à nous d'être assez humbles. Pour dire, bon, j'ai pas bien compris, ma religion m'a mal expliqué. Il faut que j'approfondisse ces choses. Il faut que je reste toujours dans les Écritures. Il faut que les Écritures me parlent. Il faut que je comprenne les Écritures. Si on veut, c'est pas obligé. On peut très bien vivre sans comprendre. Des milliers de chrétiens vivent très bien. Enfin, très bien. Ils vivent sans comprendre ça. Très bien. Peut-être que je me suis un peu avancé parce que je voudrais pas avoir leur vie, hein. Beaucoup de chrétiens ne se sont jamais posé ces questions. Complètement, ça leur est égal de savoir ça et tout. Mais mon esprit aime sonder les profondeurs de Dieu. 1 Corinthiens 2, 9, 11. Et ça, c'est un texte de Thomas. C'est un texte de Thomas. Vous trouvez ça dans 1 Corinthiens 2, 9, 11. Mais comme il est écrit... Et ça, vous pouvez chercher dans toute la Bible. C'est pas écrit. Paul cite un écrit qui n'est pas dans la Bible.
C'est un écrit qui se trouve dans l'évangile de Thomas, qui était écrit en 55 après Jésus-Christ. L'autre jour, j'ai dit avant Jésus-Christ. Je me suis trompé. L'évangile de Thomas a été écrit 55 après Jésus-Christ, donc c'est le premier évangile qui a été écrit. Et Paul, là, il cite l'évangile de Thomas et il dit, comme il est écrit, « Ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. » Pas pour les autres, pour ceux qui l'aiment. « Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. » Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'esprit de Dieu. Et nous avons reçu cet esprit de Dieu, et nous aimons sonder les choses du cœur de Dieu. Il y en a qui n'aiment pas, et qui se contentent du blablabla traditionnel dans leurs églises. Ça a l'air d'aller, bon, tant mieux. Moi, ça je ne peux pas. J'ai besoin de savoir plus. J'ai besoin de savoir plus. Non pas pour me rassurer, mais pour pouvoir expliquer. Il n'y a aucune injustice en Dieu. L'enfer a été préparé pour le diable et ses anges. Voilà qui est le diable, voilà qui sont les anges. Il n'y a pas d'injustice là-dedans. C'est juste, c'est parfait. Voilà pourquoi j'aime comprendre. Non pas pour me rassurer au sujet de la perfection de Dieu, mais pour pouvoir expliquer aux âmes troublées. Alors, puisque vous entendez ce que Dieu vous dit au travers de moi aujourd'hui, bien soyez attentifs et que Dieu vous bénisse. Amen. Merci Seigneur Jésus de m'avoir encore inspiré ce message cet après-midi. Et permets, mon Dieu, que cela puisse aider des personnes qui l'entendent ce soir, mais qui l'entendront aussi sur Internet. Merci mon Dieu, parce qu'ils pourront écouter, réécouter, enregistrer. Et comprendre pour pouvoir encore faire passer ce message dans le cœur d'autres personnes. Merci Seigneur Jésus. Amen.